France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Du secret, de l'amour et une avalanche ce samedi dans Plan Large avec Kléber Mendonça-Filho, Linour Palmason et Louise Aymon et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est Noël avant l'heure avec dans vos salles cette semaine et mercredi prochain trois des plus beaux et passionnants films qu'on ait découverts au dernier Festival de Cannes, toutes sélections confondues. Le premier est signé du plus grand cinéaste brésilien en activité, Kléber Mendonça-Filho, l'auteur des Bruits de récif, d'Aquarius, de Bacurao et du documentaire Portrait fantôme dont il nous avait parlé ici et qui n'est pas sans lien, on le verra, avec L'Agent secret. Ce nouveau film nous plonge dans l'année 1977, celle où dans son récif natal, le cinéaste a découvert enfant le cinéma commercial de genre qui a marqué à jamais son œuvre à venir. Avec ce long récit foisonnant et éclaté qui mettra bien une heure et demie à se rassembler et commencer à prendre sens, où on croise un universitaire en cavale et un requin mangeur d'hommes, une jambe poilue et assassine et un chat à deux visages, Kléber Mendonça-Filho excelle surtout à nous faire ressentir l'odeur d'une époque et sa logique de dissimulation et de corruption généralisée sous un pouvoir autoritaire qui n'est pas sans évoquer ce qu'a traversé le Brésil de 2016 à 2022 sous Jair Bolsonaro. De Kléber Mendonça-Filho, il sera encore question en fin d'émission puisque Sandra Onana reviendra dans sa chronique sur ses premiers pas de cinéaste dans des courts-métrages visibles en ce moment sur la plateforme Mubi. Le second film qui nous ravit cette semaine nous vient d'Islande comme son réalisateur Linour Palmason. L'amour qu'il nous reste est aussi minimaliste que bouleversant de beauté et de vie. Il nous dira tout à l'heure comment il est parvenu à ce miracle. Miraculeux ainsi sont aussi les débuts comme cinéaste de la jeune Louise Aymon. Il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir son englouti. Mais comme c'est un plan large un peu spécial que nous vous concoctons pour samedi prochain, on voulait dès maintenant vous prévenir avec elle que son premier film n'est à rater sous aucun prétexte. Mais pour l'heure, on part au Brésil, dans le Nord-Est et plus particulièrement, comme toujours chez Kléber Mendonça-Filho, dans sa ville de Recife.
Gente que se manca, não me manca pra dançar, porque samba no quartejo é gostoso como quem não vê. Samba jogadinho, moderninho, é assim, vê lá. Abriu do Friuco, do Friuco de Batá. Abriu do Friuco, do Friuco de Batá.
Bonjour, Kléber Mendonça-Filho.
Bonjour.
L'Agent secret, c'est un film dont vous parlez depuis un certain temps déjà. Je ne suis pas sûr que celui qu'on a vu correspond exactement à celui que vous imaginiez au début, mais vous avez gardé ce titre. Même si d'agent secret, il n'y en a pas vraiment, il y a de la clandestinité, mais pas d'agent secret. Est-ce que c'est une façon de dire qu'un film doit toujours garder trace de son élaboration, de son histoire même ?
Non, l'agent secret...
L'agent secret que je fais, c'est vraiment le film que je voulais faire. Bien que je n'avais pas une idée très claire pendant que j'écrivais le scénario, je voulais vraiment que ça soit un film qui glisse un peu.
Qui fugisse de alguma tentativa de encaixá-lo.
Et qu'on puisse échapper à cette possibilité de le mettre dans un tiroir, une catégorie facile.
trabalhar com Wagner Moura.
Il avait deux points de départ, donc le premier, travailler avec Wagner Moura.
Fazer um thriller em 1977.
Faire un thriller en 1977.
Seria O Agente Secreto.
Dont le titre, ça serait L'Agent Secret, que c'est un titre court et sexy.
Eu também acho que o filme
Je pense aussi que le film, il a aussi la logique.
De uma série de lembranças.
D'un ensemble de souvenirs.
Algumas pessoais, algumas oficiais.
Quelques souvenirs personnels, quelques souvenirs officiels.
E algumas totalmente imprecisas.
Et quelques souvenirs très imprécis aussi.
E tudo isso geraria
Et tout ça génère une quantité d'affection,
de terror,
de terreur
et de incertezas.
Et d'incertitude.
E eu gosto muito do resultado
Et j'aime bien le résultat que j'ai eu en ayant travaillé plusieurs années avec ce film.
Ce qui est très réjouissant dans votre écriture même, c'est ce romanesque qui est tout à fait proliférant. C'est un long récit qui est foisonnant, qui est éclaté. Le spectateur met à peu près une heure et demie à commencer à rassembler les morceaux et à voir l'image générale. Est-ce que ça correspond à votre façon d'écrire en voulant mettre plusieurs récits et tout ça finit par prendre sens à un moment ?
Eu tenho talvez ponto de vista
peut-être que j'ai un point de vue classique, old fashioned.
De achar que si você começa a ver o filme,
et je pense que si, quand on commence à voir le film, regarder le film,
fique comigo et va até o fim.
Et j'espère que tu restes avec moi et que, qu'on aille ensemble jusqu'à la fin. Je n'ai pas cette préoccupation d'expliquer à la minute 3. Exactement ce qui est en train de se passer.
Mas, si você esperar nesse filme até o minuto 94,
cependant, si tu attends jusqu'à la minute 94,
você vai entender a importância
tu vas comprendre l'importance de l'histoire.
Só que até lá, não é pra ser
Mais jusque-là, ce n'est pas un exercice de patience, forcément.
É pra ser uma descoberta.
Faut que ça soit une découverte.
Tem Dona Sebastiana,
il y a Dona Sebastiana.
Tem posto de gasolina,
il y a une station d'essence.
Uma gata,
il y a un chat.
Tem uma mulher interessante,
il y a une femme intéressante avec sa fille.
Dois
assassins.
E tudo isso vai sendo construído.
Et tout ça est en train de se construire.
Vous l'avez dit, Kléber Mendonça-Filho, ce sont aussi des souvenirs personnels, des souvenirs de l'enfant que vous étiez en 1977, vous aviez 8-9 ans, et surtout d'un enfant qui découvre le cinéma commercial de genre, qui rêve de voir Les Dents de la Mer, Jaws. C'est un film, évidemment, qu'on a vu d'une façon différente dans votre film précédent, qui était Portrait fantôme, qui parlait des cinémas de la ville de Recife. Comment est-ce que vous avez articulé ces deux films que vous avez pensés, on imagine, en même temps ?
D'une
façon complètement naturelle. J'ai travaillé 7 ans sur Portrait fantôme.
Eu vi muitas fotografias,
j'avais beaucoup de photos, plusieurs journaux, j'ai consulté des archives publiques, plusieurs films,
tudo isso me reconectou com o passado,
et tout ça m'a reconnecté avec le passé,
o passado da cidade, o meu
le
passado.
Passé de la ville et mon passé personnel aussi.
E isso me deu uma força
et ça m'a donné une force émotionnelle pour écrire L'Agent
Secret.
Donc,
L'Agent Secret não existiria sem o Retrato
Fantasma. Donc L'Agent Secret ne serait pas possible sans Portrait Fantôme.
Me levou ao Agent Secret.
Parce que Portrait Fantôme m'a amené vers L'Agent Secret d'une façon très naturelle.
Embora sejam filmes totalmente distintos.
Bien qu'il s'agisse de films complètement différents.
E as minhas memórias infantis da ditadura não dariam um filme.
Et mes souvenirs d'enfance de la dictature, ça donnerait pas un film.
Mas a minha lembrança táctil.
Mais à mon souvenir tactile de 1977, ça m'a accordé l'autorité pour l'écrire.
Eu, por exemplo, lembro que
Je me souviens par exemple que
nós tivemos uma crise de saúde na minha família.
Parce qu'on a eu une crise, un problème de santé dans ma famille. Ma mère est tombée malade et pendant cette période, mon oncle m'a amené au cinéma plusieurs fois avec mon frère pour nous enlever un peu de la maison et nous faire sortir un peu de ce problème. Et je me souviens donc plus du cinéma que de la dictature.
Mas isso é uma coisa boa porque me
Mais c'est une bonne chose parce que ça crée sur moi un sentiment émotionnel sur cette époque.
Mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, on a l'impression de ressentir presque les odeurs de l'époque. Vraiment, les sensations, il fallait l'avoir vécu, mais qu'en même temps, vous jouez avec les images de l'époque. Vous utilisez notamment cet objectif Panavision anamorphique, qui est celui que le cinéma américain, notamment, utilisait dans les années 70, chez Robert Altman, Brian De Palma et d'autres. Alors, comment est-ce que vous avez joué entre la sensation, vraiment, et quand je dis les odeurs, vraiment, je les sens encore, ces odeurs, et la représentation qui était celle du cinéma de l'époque?
C'est très difficile de vous expliquer tout ça. Parce que, par exemple, les objectifs Panavision, chaque verre de ça, 55-58 ans, sont des pièces très anciennes. Et quand on met ça sur la caméra, ça a un look, ça a une image. Que ce sont les images qui m'ont appris à regarder des films dans le cinéma. En comparaison avec les objectifs modernes, elles sont imparfaites. Les objectifs modernes sont de très haute résolution. Et les anciens sont un peu imparfaits.
Pour moi, elles sont parfaites.
À mon avis, elles sont parfaites.
Et
je veux que Panavision comprenne que je ne suis pas en train de critiquer ces objectifs, ces lances.
Mais
il s'agit juste d'une tonalité qui est un peu différente de ce qu'on a aujourd'hui.
Et elles m'aident à imaginer le film,
et cela m'aide à imaginer le film, à le cadrer. Je pense à Wilmer Zsigmond, Altman,
Spielberg,
Spielberg,
The Sugarland Express, Les Dents de la Mer, Troisième Rencontre. Todos esses filmes, para mim, são muito importantes.
Tous ces films sont très importants pour moi.
John Carpenter, Halloween, Assault on Precinct 13.
Excellente référence. Effectivement, Kleber Mendonça Filho, il y en a peut-être une autre encore, parce que vous le citez dans le film, c'est Le Magnifique de Philippe de Broca. Mm-hmm. Et j'ai été très frappé que pour un film d'espionnage qui se passe sous la dictature, on a d'habitude des images grises ou un peu marronnasses. Mm-hmm. Chez vous, c'est très coloré. Mm-hmm. Très coloré, comme ça l'était
comme Le Magnifique.
Dans Le Magnifique. Vous vouliez échapper au cliché du film de dictature, j'imagine.
Eu acho que o filme da ditadura é subgênero.
Dictature, c'est un sous-genre.
Do cinema brasileiro, chileno.
Du cinéma brésilien, du Chili, de l'Argentine.
Eu respeito esse.
Et j'ai du respect pour ce sous-genre-là.
Mas eu não queria fazer um filme de ditadura.
Mais je ne voulais pas faire un film de dictature.
Eu queria fazer um filme que se passasse em 77.
Je voulais faire un film que se déroulait en 77 au Brésil.
E que inevitavelmente era impactado pela ditadura.
Inevitablement, ça serait impacté par la dictature.
Então, eu pensei muito na lógica do passado.
Et je pensais beaucoup à la logique du passé et à la logique du Brésil.
Por exemplo, na par exemple, sequência de abertura,
la séquence d'ouverture à l'estation d'essence,
tem um homem morto,
il y a un cadavre, que ça fait deux jours qu'il est là,
com moscas,
avec des mouches
e um fedor,
et ça pue.
E ninguém vem pegar o corpo.
Et personne ne vient ramasser le corps.
Isso é a lógica de 1977.
Ça, c'est la logique de 1977 au Brésil.
Num posto isolado.
Dans une station d'essence isolée, reculée.
E eu também acho interessante.
Et je pense aussi que c'est très intéressant parce que ça m'est arrivé à moi.
Dois policiais chegarem para mim,
deux agents de police qui viennent vers moi
e fazerem uma lista de exigências para tentar pegar dinheiro.
Ils me font une liste d'exigences pour essayer de prendre mon argent.
E isso tá no filme.
Et ça, on voit dans le film.
Então, essa lógica.
Et cette logique, elle est dure, mais elle est presque littéraire dans un bon sens, comme une bonne histoire.
Vous l'avez dit, le film commence par un mort, un cadavre, mais il y a plusieurs morts dans votre film. Il y a les morts, ceux qui ont disparu, qui ont été jetés en mer et qui reviennent en morceaux via un requin qui les a mangés. Et puis c'est aussi l'histoire d'un mort qui nous est racontée, ce qu'on ne sait pas tout de suite. Vous vouliez précisément donner des corps à ces morts?
Foi muito discutido no Brasil agora há pouco.
Il y a eu beaucoup de discussions au Brésil le dernier mois.
Porque o filme está em lançamento no Brasil.
Parce que le film est en salle en ce moment au Brésil, il a été lancé là-bas.
E tem jornal.
Il y a un journal qui parle de la quantité de morts pendant le carnaval.
Et
il y a trois semaines, la police est montée sur la favela de Alemão, au Rio de Janeiro, pour faire une opération d'enquête.
E no final do dia tinham 124
mortos. E à fin de la journée, il y avait 124 cadavres
no chão.
Par terre.
Então, o Brasil infelizmente continua
malheureusement le Brésil
tendo uma contagem de corpos muito alta.
Continue à compter ces cadavres em grosse quantité.
O Brasil é um país incrível onde é possível
ser feliz. Est un pays incroyable où on peut être heureux et avoir de l'amour.
Mas precisamos realmente
cependant, on a vraiment besoin
enfrentar a questão da
faire face à la question de la violence.
Principalmente contra homens
surtout pretos. Contre les hommes noirs.
Il faut aussi trouver un moyen de représenter cette violence. Et chez vous, ça passe par cette histoire incroyable, qui est presque un film dans le film, l'histoire de la jambe velue. On laissera, pour le coup, les spectateurs découvrir de quoi il s'agit. Mais en voyant ça, je me suis dit qu'en mettant en image cette légende urbaine, vous faites un peu le même travail que faisait votre mère, historienne de l'oralité, des histoires populaires. C'était ça aussi que vous vouliez faire, mettre en image ce qui se raconte.
Sim, eu sou fascinado pelas
oui, lendas ça urbanas. Me fascina, toutes les légendes urbaines.
A lenda urbana, para mim, é aquele momento em que
à mon avis, la légende urbaine, c'est quand la ville réelle rencontre la fable.
Nesse caso da perna cabeluda,
et dans ce cas-là de la jambe poilue,
foram dois jornalistas que,
c'était deux jornalistes qui ont utilisé de la transgression.
Desenvolveram o código,
ils ont développé un code de ce personnage qui s'appelle la jambe poilue.
Para
pour pouvoir parler de ce qu'il ne pouvait pas parler. Donc la police, elle débarquait dans un parc où il y avait des gens, des homosexuels, des gens qui étaient en train de baiser.
Et
la police les cassait la gueule.
Mais ele não podia escrever sobre isso.
Mais les journalistes n'avaient pas le droit d'écrire sur ça.
Porque uma vez ele escreveu,
e parce qu'une fois, il a écrit, quand il est rentré chez lui et quand il descendait dans l'ascenseur, il y avait une voiture de la police comme dans le film, avec quatre agents de police, comme ça. Ah, vous êtes celui-là? On va faire un petit tour dans la voiture.
Então, depois disso,
donc, du coup, après ça, la jambe poilue est devenue le code pour la police.
Por exemplo, ontem à noite, no parque,
par exemple, hier soir, la jambe poilue a attaqué cinq hommes. Quatre sont à l'hôpital à ce moment. La jambe poilue, mais en fait, c'était la police.
E minha mãe leu
pra mim, ma mère, elle lisait le journal pour moi.
Ela falou, mas...
Mais c'est bizarre ce truc.
Não tá na página literária.
Ce n'est pas sur la partie littéraire du
tá
journal.
Na página de polícia.
C'est la partie de police.
E eu, na recherche do Retratos Fantasmas, eu encontrei
moi, quand je faisais la recherche pour Portrait Fantôme, j'ai trouvé les reportages originaux de Jean Paul.
Então, para mim é fascinante, eu não conheço.
Donc, moi, c'est fascinant. Je ne peux pas imaginer genre, le monde qui publie la jambe poilue. Comme une réaction à la censure, peut-être, ce serait possible, je ne sais pas.
Et puis, ce qui, toujours chez vous, donne le sentiment de l'époque, ce sont ces chansons, toujours magnifiques, que vous choisissez pour votre bande musicale. Est-ce que ce sont des chansons avec lesquelles vous avez un rapport personnel, qui vous ont accompagné ou, enfin, comment est-ce que vous les choisissez? Et notamment cette chanson magnifique qui ouvre le film, qui est Samba no Arpège de Waldir Calmon, sur des photos de l'époque.
Il y a plusieurs façons de trouver des musiques pour un film.
Você pode se considerar uma sumidade absolute,
donc on peut se croire vraiment quelqu'un qui connaît tout, et toutes les chansons vont venir de mon bon goût.
É possível, mas eu não trabalho.
C'est possible, mais moi je ne travaille pas comme ça. Parfois je sors et je vais dans une boutique de vinyle et quelque chose se passe d'un nuage que s'ouvre, la lumière que descend et je trouve le disque parfait
qui
c'est une complète découverte.
Je
rentre chez moi, j'écoute Je dis waouh.
Ou então eu tô no Apple Music ou Spotify procurando.
Ou sinon, je suis sur Apple Music, Spotify, en train de chercher des musiques.
Uau.
Ah ouais.
Ou tem músicas que eu gosto, ou do meu gosto.
Sinon, il y a des chansons que j'apprécie bien parce que je les écoute depuis longtemps. Sur le scénario, j'avais écrit deux chansons de Pai Beru.
Pai Beru est un disque classique.
C'est un disque classique de Pernambuco de 75,
gravado perto da minha casa,
qui a été enregistré pas loin de chez moi. Et moi, j'ai toujours voulu utiliser ces chansons-là. Et il y en a deux qui sont sur le film.
Mas algumas músicas surgem na montagem.
Mais il y a d'autres qui reviennent pendant la période de montage. Et une ou deux qui viennent au moment de tournage.
Comme par exemple Chicago, if you Leave Me Now.
Par exemple Chicago, If You Leave Me Now.
1976.
Qui c'est de 76.
Qui est un bubblegum américain, mais c'est
un truc ricain, mais c'est très sympa.
Merci beaucoup, Kléber Mendoza Filho. On va se quitter avec une chanson. Laquelle vous préférez?
A Briga do Cachorro com a Onça, qui est de la bande de Pífanos de Caruaru.
La bataille du chien et du tigre, qui est de la bande de Pífanos de Caruaru.
Na sequência de perseguição a pé.
C'est la séquence de poursuite à pied.
É uma sequência de 6 minutos com
c'est une séquence de 6 minutes avec une musique très forte.
Merci beaucoup, Kléber Mendoza Filho.
Muito obrigado.
L'Agent Secret est sorti en salle ce mercredi. On rappelle que Kléber Mendoza Filho a reçu pour ce film le prix du meilleur réalisateur au dernier festival de Cannes et son interprète, l'excellent Wagner Moura, celui du meilleur interprète. Merci à Sandro Essencio d'avoir traduit les propos du cinéaste. Vous écoutez France Culture et Plan Large, et s'il y en a un qui aurait bien mérité d'être lui aussi en compétition à Cannes, plutôt que dans la sélection un peu fourre-tout Cannes Première, c'est le cinéaste islandais Linur Palmason. Il avait déjà enchanté la croisette il y a 3 ans dans la section Un certain regard avec le fougueux et épique Godland. C'est une forme beaucoup plus minimaliste en apparence qu'il aborde avec L'amour qu'il nous reste, avec une histoire toute simple. Un couple se sépare, lui est pêcheur en mer, elle artiste plasticienne. Ils ont 3 enfants, une fille adolescente et 2 petits jumeaux, et un chien dont l'interprète, un très beau berger islandais nommé Panda, a reçu la Palme d'Or toujours à Cannes. Et puis c'est tout, même s'il y a aussi un mannequin qu'on transperce de flèches et qui serait peut-être bien Jeanne d'Arc, un coq massacré qui revient sous forme géante tourmenter son assassin, des orques et des oies vengeresses, et surtout le temps qui passe, le tout filmé en 16 mm et en format 4/3. Et c'est une des plus belles œuvres qu'il nous ait été donné de voir cette année. On a tenté d'en percer les mystères avec son auteur de passage à Paris. Bonjour Linur Palmason.
Hello, hello. Nice to see you again.
Et ravi également de vous rencontrer à nouveau pour L'amour qu'il nous reste. C'est un film qui commence par un bâtiment dont le toit s'envole. On pourrait dire que ça commence par une destruction, celle d'un foyer peut-être, mais c'est aussi une ouverture au monde, avec aussi déjà un aspect fantastique, parce qu'on voit ce toit presque volé. Comment vous est venu ce début, Linur Palmason?
Well, it came because
parce que la commune, en fait, allait détruire mon ancien atelier. Et j'ai essayé de résister et de les empêcher de l'abattre, mais ça n'a pas fonctionné. Alors tout ce que j'ai pu faire, c'est le filmer. Mais l'idée n'était pas au départ de l'utiliser dans du matériau. Mais quand j'ai commencé à travailler sur L'amour qu'il nous reste, cette image m'est apparue comme une ouverture parfaite pour le film.
Depuis quand cette image restait quelque part dans vos tiroirs et dans votre esprit ?
I filmed it in back in 2017.
J'ai filmé en 2017.
So it's even, you know, before Godland.
Donc même avant Godland. Précédent film.
In my unconscious
for a long time. C'est dans mon inconscient depuis assez longtemps.
And these last couple of years I've been kind of collecting.
Ces deux dernières années, j'ai un petit peu récolté des moments, des scènes.
And filming, the seasons
et j'ai tourné le déroulement des saisons, le passage des saisons, avec mes acteurs, en récoltant justement du matériau pour ce film.
Est-ce que ça veut dire que filmer pour vous, c'est d'abord un acte quotidien, et puis que des images vont finir par s'assembler presque toutes seules, pour vous donner des idées de films, et presque exiger que vous fassiez un film avec elle, Lino Palmason?
Yeah, because I had this problem
oui, parce que le problème que j'ai avec le cinéma, c'est que j'ai toujours l'impression que la distance entre une idée et l'exécution de cette idée est extrêmement grande. Parfois, il se passe 6 ans entre les deux, 8 ans. J'avais envie de cette immédiateté. Si j'ai une idée le matin, je sors, je vais filmer à l'heure du déjeuner, par exemple. Donc c'est vraiment un contact direct avec le matériau. On a acheté une caméra, une vieille caméra à pellicule, et de vieux objectifs. Et j'emporte toujours ma caméra avec moi à l'arrière de ma voiture. Donc je suis toujours prêt à saisir des instants de magie ou des choses qui se passent dans la vie.
Alors, cette impression est accentuée par le fait que ce sont vos enfants qu'on voit dans le film, quand on regarde le générique, il s'appelle Linsson ou Hinsdottir, donc en islandais, fils de Linur et fille de Linur. Est-ce qu'il y a une différence entre ce film et ce qu'on pourrait considérer comme un home movie, comme un film de famille? Comment est-ce que l'un nourrit l'autre, d'autant que vos enfants apparaissent, je crois, dans tous vos films?
Yeah, it's I think it's probably my most personal
oui,
film.
Je pense que c'est mon film le plus personnel.
So my most homemade film.
Le plus artisanal, même si tous mes films sont personnels.
And as you say, my children have been working.
Et oui, mes enfants travaillent avec moi depuis leur naissance presque.
One way or another,
d'une manière ou d'une autre.
Whether if it's a painting
que
or
ce soit dans les tableaux, des installations, des courts-métrages, ou ici dans mon long-métrage, avec un rôle plus important. Et en fait, ils font partie de cette vie-là, de ma vie de cinéaste, que ça leur plaise ou non. Mais ça a été vraiment un plaisir, particulièrement celui-ci. Il a été très ludique, ce film, à faire.
Et
ça a été vraiment un plaisir aussi de les voir grandir en faisant le film. Et moi, j'ai essayé de saisir ça, justement.
Oui, parce que c'est très frappant dans votre cinéma. C'est un cinéma qui travaille le temps, mais on n'a pas l'impression que vous filmez pour empêcher les choses de disparaître, comme beaucoup de personnes, une façon de les préserver. Vous les filmez pour montrer leur transformation.
I've always been drawn to,
oui, j'ai toujours été attiré par l'idée de saisir ce que je ressens au fil de la vie.
You know, the beauty of the seasons,
la beauté du passage
the
des saisons, le tempérament de la météo,
the sort of contrasts in weather,
et les contrastes météorologiques aussi, entre le chaud et le froid, l'obscurité et la lumière. C'est un excellent matériau à utiliser pour montrer l'univers autour des personnages et avoir un équilibre dans l'ambiance et dans le récit. C'est un outil narratif extrêmement puissant. Mais pour ça, il faut vraiment laisser le temps. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de patience pour ça, pour pouvoir saisir ces saisons. Parce qu'elles ont vraiment leur chronologie propre et qui est beaucoup plus lente que la nôtre.
Cette patience, c'est aussi celle du personnage que joue Anna, la mère de famille, qui est artiste et qui a une pratique qui consiste à découper des grandes plaques de métal et puis à les laisser s'oxyder et laisser leur empreinte sur une plaque, qu'on pourrait dire une plaque sensible de photographie. Est-ce que montrer ça, je crois que ce sont vos propres œuvres qu'on voit dans le film, c'est aussi une analogie de votre conception du cinéma. C'est précisément cette patience et ce temps qui fait le cinéma que vous nous proposez, Ninur Palmason.
Yeah, I think it kind of all of these things that you explore.
Tout ce qu'on explore.
And things that you're interested in, whether if it's.
Et ce qui nous intéresse dans la vie, que ce soit de l'audio, du visuel.
Or, I think all of these things are kind of in dialogue with each other.
Toutes ces choses-là, elles dialoguent en fait.
And you kind of just explore it and allow it to.
Il suffit de l'explorer et de le laisser aller où ça a envie d'aller. Et si on a de la chance et qu'on passe du temps sur ses œuvres sans trop de bruit extérieur et trop de distractions, ces œuvres, elles se mettent à parler un peu d'elles-mêmes et elles décident un peu elles-mêmes où elles ont envie d'être. Plutôt un court-métrage, ce qu'elles ont envie d'être, plutôt un court-métrage, une installation vidéo, ou bien avec un récit plus fort, plus important. Et là, c'est devenu un long-métrage. Mais parfois, c'est plus physique, c'est plus un objet, comme une sculpture. Et moi, je laisse les choses être ce qu'elles ont envie d'être. Et j'ai su très vite que je voulais que le mari travaille en mer et que la mère, elle, travaille sur terre. Donc les œuvres sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années, que j'appelle la série Un hiver, ce sont ces sortes de peintures de rouille. Je trouvais que ça marchait très bien. Dans sa démarche artistique, c'était très physique. Et ça permettait vraiment de dialoguer avec les saisons aussi. Et avec le sol.
Se laisser surprendre par ce qui va advenir, ce que vous venez de nous décrire, c'est aussi ça que permet un tournage avec des enfants et un chien et de nombreux animaux, c'est-à-dire que ce que vous aurez prévu va toujours un peu dévier. C'est ça que vous recherchez aussi ?
Yes, absolutely. I think.
Oui, absolument.
What I really hope going into a process is.
Ce que j'espère quand je fais cette démarche.
C'est
que j'espère que oui, le matériau va se développer et devenir plus que ce que j'imaginais en me surprenant. Et quand je suis entouré des bonnes personnes et que j'ai la souplesse et l'ambiance qui correspondent, je mets toutes les chances de mon côté pour que les surprises adviennent et surgissent. Quand on travaille avec des animaux et des enfants, tout est beaucoup plus chaotique. Et ça permet de déclencher de fortes surprises. Et aussi des choses qu'on ne peut pas utiliser. Et ça c'est vraiment bien.
Chacun de vos plans sont très beaux, ont une grande beauté plastique et graphique, par moments. Comment est-ce que vous les pensez, ces plans ? Est-ce que vous les composez très longuement ? Est-ce que ça vous vient de façon très instinctive ?
Yes, very instinctively.
Oui, de façon très instinctive.
For so long.
Quand on fait quelque chose depuis très longtemps, voilà, moi je fais de la photographie depuis longtemps. J'ai passé un an dans une chambre noire à Copenhague et je prends des photos depuis toujours. Donc vraiment, c'est très fluide pour moi comme démarche.
I'm actually not trying to, you know, create beautiful images.
Je ne cherche pas à créer de belles images, forcément.
I'm just trying to
j'essaye capture, seulement de saisir
as simply as possible,
le plus simplement possible
the kind of the energy and temperament,
l'énergie et le tempérament, le caractère de la scène.
So I often find myself
donc je me retrouve souvent
à
simplifier petit à petit les scènes.
Nothing too fancy.
Je ne cherche pas à faire des fioritures.
Just an old camera,
une vieille caméra, un vieil objectif.
Old tripod.
Et un vieux tripod.
And un trépied. Maybe a slight pan or a tilt.
Et puis voilà, juste un petit panoramique, c'est
no
tout.
Dolly, no nothing.
pas de travelling ni rien.
Yeah, simple is sometimes quite hard.
C'est plus difficile parfois de faire de la simplicité.
It's very hard to make a good pan.
Et un bon panneau, c'est pas si évident.
Yeah. On pourrait croire, à vous écouter et à m'écouter aussi d'écrire votre film, que votre cinéma est très aride. Or, il ne l'est pas du tout. Il pétille de vie en permanence et d'humour aussi. Il y a des gags assez extraordinaires. Il y a des moments fantastiques tout à fait stupéfiants. Alors, comment est-ce que ces idées vous viennent, là encore? Est-ce que c'est sur le motif pendant que vous tournez? Et surtout, comment est-ce qu'au montage, vous arrivez à équilibrer cette dimension très terre à terre et fantastique, mais aussi cette douceur, cette violence, le côté sentimental qu'il peut y avoir et l'humour. C'est un équilibre, un dosage permanent dans votre montage, Linur Palmason.
C'est
une bonne question parce que tout est une question d'équilibre. Et c'est ça ma mission.
And also the job of my editor and
c'est aussi la mission de tous mes collaborateurs, de mon monteur, de mon sound designer.
We begin working on that very early.
Et on commence à y travailler très tôt dans le processus.
When I'm writing the script, I'm always thinking about
je pense vraiment déjà
à
cette composition. C'est pour moi, je le conçois comme une composition.
So it's kind of balancing, as you say, like how do we
donc j'essaie de mettre en place cet équilibre et comment passer du début d'une scène à quelque chose d'absurde ou de dramatique ou d'étrange. L'idée, c'est d'y arriver d'une façon qui soit naturelle, avec une montée en puissance lente. Voilà, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est la montée en puissance. C'est ça qui est chouette à faire.
Very much the balance of not being sentimental,
et l'équilibre, il est aussi dans le fait de ne pas être sentimental, mais aussi d'avoir du ludique et de la beauté.
But never move into the sentimental
mais ne pas trop tomber dans le sentimentalisme. Et tout est dans la collaboration. C'est vraiment un travail avec le film pour l'équilibrer. Pour atteindre le caractère propre du film.
Vous parlez de composition, la musique du film vous a sans doute aidé à trouver ce ton. On parlait de minimalisme, c'est un musicien minimaliste, Harry Hunt, et son disque « Playing Piano for Dad », qu'on entend beaucoup dans ce film. Comment se sont mariées vos images avec cette musique, Linur Palmason?
Well, I've been filming for so long.
Je tourne depuis longtemps et en fait je visionne aussi beaucoup de
rushs.
Donc en fait quand je reçois toutes ces images, au départ c'est sans le son. Et quand je le vois pour la première fois, j'ai oublié déjà ce que j'ai filmé. C'est comme un moment assez magique. Donc souvent je mets de la musique.
When I played this album,
et quand je me suis passé cet album de Harry Hunt, c'était comme si le film avait un peu la même tonalité que l'album. J'ai senti tout de suite un lien. J'ai tout de suite entendu ce lien. Et c'était comme si vraiment il était fait pour. Donc j'ai contacté Harry et on s'est mis à travailler ensemble.
the whole album.
Et finalement, on a utilisé presque tout l'album.
And then he made extra, clarinet recordings.
Et il a fait quelques enregistrements de clarinette en plus qu'on a saupoudré.
It was a very kind of effortless,
et ça s'est fait de façon très fluide et très plaisante.
And also a big surprise because I thought
et
there wasn't any music.
La surprise, c'est qu'au départ, je pensais qu'il n'y aurait pas de musique dans le film.
I have a very hard time imagining,
et maintenant, je ne peux plus l'imaginer, le film, sans cette musique.
Harry Hunt's
et sans la musique de Harry Hunt en particulier.
Eh bien, merci beaucoup, Linur Palmason. On se quitte avec la musique de Harry Hunt. Merci.
Thank you very much.
L'amour qu'il nous reste est lui aussi sorti en salle ce mercredi. Merci à Anaïs Duché d'avoir traduit les propos de Linur Palmason. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ne saurait trop vous recommander de vous précipiter dès mercredi, fêter Noël dans les salles de cinéma, en y découvrant L'Englouti, un formidable premier film logiquement récompensé comme tel par le prix André Bazin. Le film se situe en 1899, l'hiver où on va rentrer dans un nouveau siècle. On y suit les pas d'une jeune institutrice, elle s'appelle Aimée, jouée avec une trouble sensibilité par l'excellente Galatea Bellucci, censée apporter les lumières de la République à une population arriérée dans les Alpes, mais qui va se retrouver submergée par des forces qui la dépassent et l'emportent. C'est beau comme L'arbre au sabot d'Ermano Olmi ou le premier Heimat d'Edgar Wright. C'est aussi un film dans le blanc de la neige qui travaille le noir de la nuit et métaphoriquement l'affrontement des lumières et de l'obscurité, ou peut-être l'attirance des unes pour l'autre et leur contamination réciproque. Nous avions rencontré Louise Aymon au Festival de Cannes où son film illuminait la quinzaine des cinéastes et elle nous avait expliqué pourquoi le hameau du film s'appelle Soudain. Louise Aymon.
Travaille autour du surgissement c'est vrai que comme c'est une histoire de contraste, après je l'ai pas décidé, mais voilà, je viens du documentaire et aussi on se saisit du réel et je travaille de cette manière là. En fait, en montagne, le manteau neigeux, c'est un réflecteur géant, donc les images sont très éblouissantes. La nuit, la lune, c'est le projecteur rêvé qui éclaire tout sur le manteau neigeux, donc on a des nuits américaines naturelles. Donc ça amène du fantastique, ça amène de l'étrange, mais je voulais pas faire un giallo, rajouter des lumières et aller dans le genre, parce que de toute façon, on n'avait pas d'électricité là-haut. Donc on a fait avec la nature, et en fait la nature nous a apporté des choses magnifiques. Et après l'intérieur, c'était important pour moi. On a aujourd'hui des caméras avec des capteurs hypersensibles depuis 10 ans, et on peut filmer vraiment dans l'obscurité beaucoup plus qu'avant, même en pellicule on pouvait pas. Donc je me suis dit c'est formidable, je peux montrer comment on voyait, c'est-à-dire les sources de lumière sont à l'écran, c'est des bougies, les chandelles ça coûte cher, donc il y en a peu. Le feu, les lampes à huile, pareil, de manière parcimonieuse. Et le spectateur fouille le plan, cherche à voir. Et bien sûr, ça me crée un système visuel entre les lumières, l'obscurité qui va avec ce que raconte le film. Mes parents vivent là-bas, je connais très bien. Il y avait des villages que j'avais repérés. Mais en fait, avec le réchauffement climatique, le temps d'écrire un scénario, 5-6 ans, plus de neige l'hiver. Donc, on est parti beaucoup plus haut. Fallait un manteau neigeux stable, en fait, pour que les plans puissent correspondre les uns avec les autres. Donc, on était à près de 2000 mètres d'altitude. Donc, on a monté un groupe électrogène, on était sur batterie. Et en effet, c'était la galère. On avait froid, il y avait du vent. Pour l'équipe, c'était en même temps, ça rassemble quelque part. On a l'impression de vivre une expédition. En même temps, c'est quand même magique, c'est très très beau. Donc, on est dans un environnement assez merveilleux. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout pour les acteurs, parce que en fait, il y a même pas besoin de psychologie. Aller d'un point A à un point B, déjà, c'est compliqué. Soit il y a du verglas, ça glisse. Soit on s'enfonce, et donc soit on se prend du vent dans la face, on a froid, on n'arrive pas à parler parce qu'on grelotte. Et du coup, le corps, il est engagé. Et du coup, tout de suite, moi, je peux capter déjà du vivant. Et c'est une forme aussi de burlesque larvée que j'adore et c'est ce que j'avais envie de montrer.
Vous avez une façon merveilleuse de capter le rosissement de la peau de Galatea Bellucci exposée au froid. C'est ça aussi que vous vouliez filmer?
Oui, je dois saluer le travail de la maquilleuse Sarah Meskov qui a fait un travail merveilleux sur sur le froid, le rougissement, parce qu'on ne laissait pas Galatea se geler exprès.
Ah bon?
Donc voilà, mais en effet, elle a les oreilles toutes rouges, la peau rouge, et c'est vraiment... En fait, on a très peu accès à la peau. Ce sont des personnages qui sont emmitouflés, et donc pour aussi évoquer les émotions, on se servait voilà de ce rougissement des mains, de ce qui était à notre portée, et surtout on passait par la sensualité, les sensations du paysage, du froid, du vent pour exprimer ces émotions.
Alors, l'émotion s'exprime parfois de manière tout à fait métaphorique. Je crois que je n'ai pas vu d'image plus spectaculaire du plaisir féminin que depuis longtemps que dans votre film. Parlez-nous un peu de ces avalanches, Louise Aymon.
En fait, aimer donc mon personnage, elle parle à personne, elle n'a pas de confident, elle est un peu, c'est le cow-boy seul contre la communauté hostile. Et donc, je peux pas exprimer ses émotions dans mon film autrement qu'à travers des symboles, à travers son visage, à travers ce qu'elle ressent. Et donc, la montagne, elle est là, elle s'exprime, elle est vibrante. C'est pas un élément figé, même si on a l'impression qu'elles sont là depuis toujours et ce qui donne, qui apporte une part de légendaire dans l'image. Comme ça, quoi. Il y a quelque chose de très fort quand on filme les montagnes. Et les avalanches, on en parlait à l'instant, c'est le surgissement aussi, c'est le danger. Et voilà. Et comme je voulais aussi exprimer, donc il y a la représentante de l'État, l'uniforme, mais il y a aussi la jeune femme. Et je voulais aussi montrer qu'à cette époque, les femmes étaient aussi libres, conscientes de leur corps, conscientes de leurs désirs, de leurs plaisirs. Et donc je voulais montrer un personnage qui est cette forme de modernité, c'est une femme politisée, mais aussi libre.
I step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well.
L'Englouti sortira en salle mercredi prochain. C'est un film soutenu par France Culture et on s'en réjouit. Pour en savoir plus, Louise Aymon sera mercredi prochain reçue par Marie Sorbier dans les Midis de Culture. S'il vous manque quelques dernières idées de cadeaux de Noël, on a quelques beaux livres à vous suggérer dans Plan Large. Le premier s'adresse aux plus bibliophiles et fortunés d'entre vous. C'est un livre d'art, la reproduction à l'identique dans un somptueux coffret blanc des 5 cahiers qui constituent le dernier projet de Jean-Luc Godard avant sa disparition volontaire en 2022. Scénario. Alors c'est moins la trace d'un film fantôme que de véritables films de papier qui relèvent de l'essence de la poétique godardienne, celle du collage, d'images, de peintures, de dessins, de photographies et de textes cités ou inventés. Les cahiers de collage de Jean-Luc Godard, véritables journaux intimes, laboratoires de montage, sont la mémoire de sa pensée en mouvement, écrit joliment Dominique Painine dans un des textes qui accompagne ce coffret. Les œuvres, on les a vues, elles ont été exposées en Espagne, en Angleterre, en Suisse et en France. C'était il y a un an au musée de l'Orangerie. Vous pouvez dorénavant vous offrir ou faire offrir leur reproduction. C'est tiré à 1000 exemplaires, ça coûte quand même la coquette somme de 1000 euros. Cotisez-vous, c'est disponible sur le site de l'éditeur, le livre d'images édition et dans quelques librairies. Leur liste est sur la page Plan Large de franceculture.fr. Pour celles et ceux qui préfèrent la période des années 60 du cinéaste-poète, un beau livre beaucoup plus abordable rassemble les photos prises par Georges Pierre sur le tournage de Pierrot le Fou, des images pour la plupart inédites, accompagnées par un texte fort instructif sur la fabrication de ce film mythique. C'est chez Neva Éditions. Et puis enfin, pour celles et ceux qui fréquentent depuis des années, comme nous, et avec bonheur, le Festival de La Rochelle, son ancien photographe officiel Régis Daudeville a rassemblé les belles images qu'il y a glanées au fil des éditions. Ça va de Iamabas à Jiajanke, avec un Claude Chabrol chabrolissime en couverture, et c'est éclectique et joyeux, comme peut l'être le festival. Ceci annoncé, mauvaise nouvelle, il fait un temps de chien à Récif, même pour un Breton.
Vous savez, moi je viens de Bretagne et en Bretagne on a de belles plages aussi, mais on n'a pas le soleil, on a la pluie. Moi, j'avais tout misé sur le soleil, justement. D'ailleurs, ma pousada s'appelait ben, le soleil. Et donc, moi, je vendais des séjours au Brésil 100% garantie soleil. C'était mon marketing. Et donc là, voilà quoi. Il pleut, c'est la Bretagne ici.
En la semana del dramático cambio climático, Patrick recibía un grupo de 30 turistas franceses, suecos y rusos.
Ils arrivaient, ils descendaient de l'avion, chemise à fleurs, bermuda, tout heureux. Et, mais là, dès que les portes vitrées de l'aéroport s'ouvraient, là, ils faisaient la tête. Hein, là, malgré les mauvais commentaires, tout ça, j'ai quand même réussi à faire, continuer à faire des réservations. Et mais là, jusqu'au jour où sont arrivés tous les journalistes, quoi. Alors là, là, il y avait plein de, il y avait une trentaine de journalistes français là sur la plage à filmer tout ça, le ciel, les nuages, le froid. Et donc, là, c'était fini, quoi. Là, j'ai plus de réservation du tout. Voilà. Et depuis, personne.
Avant de s'imposer dans les festivals internationaux et les salles de cinéma comme le plus grand cinéaste brésilien en activité, je l'ai dit, on l'a entendu tout à l'heure, Kleber Mendonça Filho s'est fait la main, comme la plupart de ses collègues, sur des courts-métrages qu'on peut découvrir en ce moment sur la plateforme Mubi, avec également le film qu'il a révélé, son premier long-métrage, Les Bruits de Récif. Ils sont au nombre de 4, ces courts-métrages, et d'une grande diversité de styles. Il y a ce Récif et Frio, dont on vient d'entendre un extrait, un documentaire, pour reprendre la formule d'Agnès Varda, sur un récif soudainement glacé. Il y a aussi un petit conte joyeusement horrifique, Vinyl Verde, une comédie électroménagère, Electro Domestica, qui contient déjà d'ailleurs certains des motifs futurs des Bruits de Récif, et puis une romance à distance, Noite de Sexta, Mania de Sabado. Le tout va de 2004 à 2009 et éclaire comment les débuts du cinéaste Sandra Onana.
Bah c'est vrai qu'il n'y a pas un court-métrage qui se ressemble. Chaque film est un prototype en soi. C'est impressionnant, y compris dans les choix formels. Il y a donc le documentaire satirique, on l'a dit, mais aussi le roman photo à la Chris Marker. On identifie déjà le goût de Mendonça Filho pour le cinéma de genre. C'est quelqu'un qui a souvent revendiqué son amour pour les films d'horreur, notamment de John Carpenter. On voit quand il tourne un court expérimental au smartphone, on est en 2007, c'est bien avant que les Américains Steven Soderbergh et Sean Baker s'y mettent aussi. Et en plus, il y a un lien entre le choix du médium et l'intrigue, puisque l'idée, c'est de raconter l'échec de communication longue distance entre un homme et une femme, chacun sur une rive de l'Atlantique, et c'est de réconcilier leurs deux temporalités au montage. Donc tout ça, c'est l'œuvre de formation d'un critique en voie de reconversion, donc, qui est aussi programmateur, mais déjà chroniqueur de sa ville de toujours dans ses films Récif. On sent que le cinéma lui donne l'occasion de régler ses comptes avec les nouveaux paysages de la modernité, moche et agressif, nous dit le journaliste télé dans Récif Frio, en montrant les barres d'immeubles qui poussent dans le brouillard. L'idée de ce documentaire qu'on a entendu, c'est de se demander qu'est-ce qui resterait de nous, ou même de l'imaginaire touristique attaché au Brésil, si on lui retirait la plage, la fête, les bikinis. Qu'est-ce qui, à l'inverse, serait perdu à jamais si l'hiver éternel tombait sur cette ville de Récif, celle qu'on appelle la Venise brésilienne? Donc triste tropique, comme dirait l'autre, sous couvert d'humour noir, c'est aussi une manière de se demander qui sommes-nous. Bon, on finit par se dire que ce mystérieux choc climatique dont il est question dans le film, qui congèle l'atmosphère, il n'est pas sans lien avec le fameux choc de cette urbanisation accélérée à l'européenne qu'il thématisera dans ses futurs longs-métrages. C'est toujours, ce sera dans Aquarius, dans Les Bruits de Récif, le thème d'une communauté paisible perturbée par l'irruption d'un agent privé sur le mode de la prédation immobilière. Et ça, c'est toujours un moyen d'ouvrir une fenêtre sur les fractures de classe, comme avec ce segment très drôle, toujours dans Récif Frio, d'une riche famille dans un appartement au bord de mer qui, face à la vague de froid, se retrouve en fait la moins bien lotie de la ville, au point qu'il faille déloger la domestique de sa chambre quand même, normalement la chambre la plus inconfortable parce qu'elle retient la chaleur. Ça, c'est génial, par exemple, dans ce qu'on appelle l'esthétique du carnaval, c'est-à-dire le renversement des valeurs de toutes les structures de domination établies, y compris celles, nous dit le film, qui sont héritées de l'esclavage. Alors, on voit bien que c'est un cinéaste qui se fait encore la main sur son style. On reconnaît déjà les effets de distanciation pop, les associations d'idées grinçantes, toujours avec cette nonchalance dans l'étrangeté, cette fausse impression de calme plat qui fait plus ou moins rester sur le seuil du paranormal. Donc, Electro Modestica, par exemple, c'est donc déjà le portrait d'une vie de quartier, les fenêtres ouvertes, le balcon est un poste d'observation. Il recréera évidemment beaucoup de ces scènes à l'identique dans Les Bruits de Récif. Mais c'est surtout une manière épique, presque monstrueuse, en fait, de regarder la vie domestique en travaillant à la bande-son, cette sorte de symphonie d'objets électroménagers extrêmement bruyants. Et donc tout ça, c'est le quotidien d'une femme au foyer qui est pour le coup enivrée par la modernité de sa maison jusqu'au dernier degré d'érotisation de sa machine à laver, parce qu'elle vous envoie au 7e ciel cette machine à laver grâce à ses usages vibromassants. Pareil pour l'aspirateur, quasiment doué d'une vie autonome, l'aspirateur, on aspire le sol avec, et puis on se dit, mon Dieu, en fait, tout est aspirable, le plafond est aspirable, mon propre fils est aspirable, donc c'est très drôle. Et tout ça rejoint une seule et même dystopie de la consommation. C'est la même dont il est question dans le mockumentaire, puisqu'on nous explique que les rues sont vides parce que tout le monde est parti se réchauffer au centre commercial. Gros climax documentaire du film. Faut savoir que l'allégorie, c'est pas une figure de style innocente dans le cinéma brésilien. Il y a tout cet héritage de la dictature militaire où il fallait savoir contourner la censure. Ce qui veut pas dire que cet art du décalage soit au détriment de la radicalité et de la férocité. Évidemment, l'exemple le plus glaçant là, dans cette filmographie de Mendonça Filho, c'est le Vinyle Vert, ce court-métrage dont il dira qu'il l'a aidé à exorciser la mort de sa mère malade. On pense beaucoup à Barbe Bleue, parce qu'en fait, c'est un conte pour enfants sur la désobéissance, mais aussi sur la transmission des démons générationnels, avec tout ce que ça peut convoquer de mémoire du totalitarisme. Et donc, c'est l'histoire d'une mère qui demande à sa fille de ne pas écouter le vinyle qu'elle lui lègue, c'est mal barré du coup, censé renfermer des comptines pour enfants. Jour après jour, la mère va payer le tribut de la transgression de sa gamine, c'est-à-dire rentrer à la maison avec chaque fois un bras en moins, une jambe en moins. Tout ça sans effets spéciaux, évidemment c'est des films fauchés, ça veut dire qu'on va se contenter de demander à l'actrice de cacher son bras dans son t-shirt, et c'est la naïveté très stylisée du film qui opère, comme de la BD jusque dans la palette des couleurs, très solaire. Donc, comme dans L'Agent Secret, on trouve déjà des membres amputés qui vous rendent visite la nuit comme le croque-mitaine. Il faudra attendre encore une dizaine d'années pour que Kleber Mendonça Filho devienne cette immense figure du renouveau du cinéma brésilien. Il dira alors « J'ai ce sentiment d'appartenir à une génération qui ourdissait une folle révolution du cinéma brésilien depuis 10 ans et que celle-ci est doucement en train de se concrétiser. » Ce qui donne envie de dire « Mieux vaut tard que jamais ».
Merci Sandra Onana. Les débuts de Kleber Mendonça Filho, c'est à découvrir en 4 courts-métrages et un long sur la plateforme Mubi. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Romain Lucquiens, Noé Chaban et Olivier Arnet. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Juliette Marcaillou et réalisée par Anne-Laure Chanel et Camille Mathy.